Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Chaque année dans le monde, la journée du 19 août rend hommage aux hommes et aux femmes qui travaillent dans l'humanitaire. Avec le soutien des bailleurs, ces personnes s'efforcent à répondre aux besoins croissants des populations vulnérables. Un travail qui n'est pas sans risque, il faut le dire. Selon les Nations Unies, en 2022, 444 travailleurs humanitaires ont été attaqués. Dans ce nombre, 116 ont été tués, 143 blessés et 185 kidnappés. Qu'en est-il de la situation humanitaire au Mali? Dans quelles conditions travaillent les acteurs? C'est de cela dont on va parler ce soir dans ce débat. Et nos invités sont Ibrahima Kone, chargé de l'information publique et de plaidoyer au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
À ses côtés, Mamadou Diarisso, du commissariat à la sécurité alimentaire. Bienvenue. Et au téléphone, nous avons M. Maloud Diko, il est représentant des déplacés de Falajé, il sera au téléphone. Je suis Mariam Koulibaly et le débat sur le thème « Les humanitaires au service des personnes vulnérables », c'est tout de suite.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir chers auditeurs de Studio Tamani. Notre première question, nous allons l'adresser à M. Ibrahima Kone. Il est chargé de l'information publique et de plaidoyer à Otia. M. Kone, depuis quand la journée mondiale dédiée aux humanitaires est célébrée dans le monde et plus précisément au Mali?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Et avant tout propos, je voudrais une fois de plus remercier Studio Tamani de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui à travers vos ondes. Donc la journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée, on va dire, depuis l'année 2003. En fait, c'est une journée qui rend hommage aux personnes qui ont été tuées à la suite d'un attentat suicide le 19 août 2003, justement, à Bagdad, la capitale de l'Irak. Donc ce jour-là, il y a eu un attentat suicide contre le siège des Nations Unies. Donc l'attentat en question a fait 22 morts et plus de 150 blessés. Donc depuis ce jour, le 19 août a été décrété Journée mondiale de l'aide humanitaire pour rendre justement hommage à ces hommes et à ces femmes qui souvent, au risque de leur vie, viennent en aide à d'autres personnes dans les besoins.
Alors, M. Mamadou Diarisso du commissariat à la sécurité alimentaire, est-ce que le commissariat à la sécurité alimentaire prend part aux festivités?
Bon, le commissariat de sécurité alimentaire effectivement prend part aux festivités à travers les relations avec nos partenaires humanitaires.
Et vous menez des actions sur le terrain pendant cette journée ou bien des actions s'étendent tout au long du mois d'août?
Bon, les actions s'étendent tout au mois d'août, à travers des donations aux personnes qui sont dans les besoins, des personnes en insécurité alimentaire.
D'accord. Maintenant, nous allons donner la parole à Maloud Diko. Il est le représentant des déplacés de Falajé. Monsieur Diko, la journée des humanitaires est célébrée chaque année le 19 août. Est-ce que vous prenez part aux festivités? Pendant la fête des humanitaires au Mali, ici, est-ce que vous prenez part à la fête? Vous participez à la fête des humanitaires au Mali?
Oui, on est participé. Et on a participé aux humanitaires de la fête au Mali.
Oui, comment?
Parce qu'il y a beaucoup des ONG qui passent nous voir.
Oui.
Et pour nous donner quelques nourritures. Et il y avait la santé aussi qui passe tout le temps.
D'accord.
Pour soigner nos gens qui sont là.
Donc, vous prenez pleinement part aux festivités. Nous revenons dans le studio pour donner la parole à Ibrahima Kone de Otia. Et pendant cette journée, ou bien pendant tout au long du mois, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain? Quelles sont les activités que vous organisez?
Et si vous permettez, avant de répondre à cette question,
allez-y.
Je voudrais faire une petite clarification.
Allez-y.
Ce n'est pas vraiment une fête, c'est pour rendre hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie. Donc c'est plutôt une commémoration et non une célébration.
D'accord.
Et donc, pour revenir à votre question, depuis le début du mois d'août, la commémoration de cette année est placé sous le thème « Quoi qu'il arrive ». Quoi qu'il arrive, parce que malgré d'énormes difficultés, les acteurs humanitaires quand même arrivent à venir en aide aux communautés affectées par les conflits et les catastrophes naturelles. Donc, depuis le début du mois d'août, je disais que la célébration, la commémoration se déroule autour du thème « Quoi qu'il arrive ». Donc, nous avons commencé une campagne sur les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est Twitter, tout ce qui est LinkedIn, pour mettre en avant le travail justement des acteurs humanitaires, ce qu'ils font au quotidien au bénéfice des populations dans les besoins, à travers des témoignages, des textes, des vidéos, des photos, pour montrer leur quotidien, mais aussi des témoignages des personnes qui ont bénéficié justement de l'assistance humanitaire. Et ces ensembles de témoignages montrent à quel point notre travail est important. Et même si le 19 août est passé, aujourd'hui nous sommes le 23, on continue à faire cette campagne au niveau digital. Mais au-delà aussi de la campagne digitale, dans les régions, il y a eu des célébrations, des commémorations. Par exemple, à Mopti, la communauté humanitaire autour du gouverneur a érigé en fait des stands. Donc les visiteurs passaient et chaque acteur expliquait un peu son mandat. Et non seulement à ces visiteurs-là, mais aussi aux autorités, on va dire. Et à la fin de la journée, il y a un match de foot qui a opposé les déplacés internes, et une équipe de déplacés internes et des acteurs humanitaires à celle de l'autorité. Au niveau de Tombouctou, il y a une visite de ce qu'on appelle le One Stop Center, qui est un guichet unique qui vient en aide aux personnes victimes, ou plutôt survivantes de violences basées sur le genre. Et à Gao aussi, il y a eu des activités, notamment une conférence débat et à la fin aussi un match de foot qui a opposé justement une équipe de déplacés internes à la communauté humanitaire.
Donc tout est un programme, mais est-ce que déjà on connaît le rôle d'un humanitaire? C'est quoi le rôle d'un humanitaire?
Alors, c'est difficile de répondre par un seul mot, le rôle d'un humanitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un acteur humanitaire, une femme ou un homme, vient en fait en appui aux actions posées par l'État. Et parce que c'est l'État, on va dire, qui a le rôle régalien de venir en aide aux personnes dans le besoin. Donc nous, acteurs humanitaires, nous sommes là pour soutenir toutes les actions menées par l'État en faveur des personnes qui sont dans le besoin, soit victimes de conflits ou victimes de catastrophes naturelles. Donc, c'est difficile de répondre par un seul mot, mais c'est plusieurs actions que nous menons pour réduire, on va dire, amoindrir les souffrances des personnes qui sont vraiment affectées.
Alors, M. Mamadou Diarisso, quelles sont les missions du commissariat à la sécurité alimentaire?
Bon, le commissariat à la sécurité alimentaire, c'est une structure qui est chargée de l'élaboration de la politique nationale de sécurité alimentaire et sa mise en œuvre. Alors, dans ce cadre-là, le commissariat à la sécurité alimentaire propose des stratégies pour élaborer l'ensemble des besoins en alimentaire pour essayer de venir en aide aux populations en insécurité alimentaire à travers le pays. Et pour cela, nous faisons une analyse de la situation alimentaire à travers le pays et pour déterminer les zones en insécurité alimentaire et identifier les populations qui sont dans ces zones-là, qui sont en insécurité alimentaire à travers le cadre harmonisé qui est déroulé par le système d'alerte précoce. Donc, alors, quand on fait une évaluation de cette situation alimentaire et qu'on puisse déterminer les populations qui sont en insécurité alimentaire, nous élaborons un plan national de réponse, qui est une réponse à l'insécurité alimentaire. Alors, à travers ce plan national de réponse, nous planifions des activités à travers, de concert avec nos partenaires humanitaires pour venir en aide aux populations en insécurité alimentaire à travers des donations sur des kits alimentaires, des donations, des distributions alimentaires gratuites et d'autres activités.
En ce moment, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire?
Oui, chaque année, nous faisons une évaluation. Cette année, nous sommes à 1 200 000 personnes, un peu plus de 1 200 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire à travers le pays.
Et le plan de réponse qui est établi pour ces personnes-là, est-ce que ça répond correctement à leurs besoins?
Effectivement, nous faisons une planification conjointe avec nos partenaires humanitaires. Mm-hmm. Alors, pour venir en aide à ces populations en insécurité alimentaire à travers une distribution alimentaire gratuite et souvent qui est complétée par les interventions des partenaires humanitaires qui leur viennent en aide aussi pour compléter ce que nous donnons. Parce que généralement, nous donnons la démarration et pendant 3 mois. C'est ce que nous planifions et ce que nous exécutons en fonction des moyens de l'État.
D'accord. Monsieur Maloud Diko, vous êtes le représentant des déplacés de Faladje. En ce moment, de quoi les déplacés ont besoin au niveau de votre zone?
Vraiment, ce que nos déplacés ont besoin d'aujourd'hui, surtout, nous avons besoin de nourriture, parce qu'il y a aujourd'hui vraiment, c'est tellement dur, vraiment c'est sec par rapport à nos gens, nos déplacés qui sont là aujourd'hui. Et toutes les bailleurs du fonds, avant les bailleurs du fonds, les gens volontaires. Et il y a des projets IRC, UNESCO, qui font des donations tout le temps. Et des Arabes qui viennent de la Turquie, qui nous donnent beaucoup de dons d'ici. Et ils sont tous partis. Et l'État, ce que l'État donne, c'est insuffisant. Mais aujourd'hui, vraiment, nous avons besoin beaucoup, beaucoup. Il faut que l'État aille aider beaucoup nos déplacés qui sont là, parce que vraiment, ils sont faim aujourd'hui. Ils sont faim. Ils sont faim encore. Nos gens, tu sais que c'est le moment de paralysie. Tout le monde est malade maintenant. Même moi-même, là où je suis maintenant, je suis un peu souffrant. Excusez-moi. Je ne sais même pas bien aujourd'hui. Et vraiment, surtout les nourritures. Il faut que l'État informe l'État. Il n'a qu'à faire beaucoup de choses pour nous, vraiment. Deuxièmement, nous n'avons aucun souci aujourd'hui, et surtout l'ethnie Pel et l'ethnie Dogon qui est en train de se affronter, vraiment ça, je ne sais même pas quoi dire. Il y a des femmes, il y a des Pel, leurs mamans qui ont Dogon, il y a des Dogon aussi, leurs mamans c'est des Pel. Nous sommes des parents. Et ça aussi, vraiment, il y avait un grand souci envers nous aujourd'hui. Parce que nous sommes des parents. Nous sommes des mêmes villages. Il y a des Pels qui ont marié les Dogons, il y a des Dogons qui ont marié les Pels. Et aujourd'hui, c'est Sonté qui est en train de s'affronter. Et vraiment, ça me dit quelque chose. Ça me choque.
Alors, M. Ibrahima Kone, vous venez d'entendre M. Maloud Diko, il est le représentant des déplacés de Faladjé sur notre plateau. Qu'avez-vous à dire par rapport à ces propos?
Nous comprenons la situation difficile que traversent ces personnes déplacées qui sont sur le site de Faladjé. Je pense précisément sur le marché à bétail. Mm-hmm. Et je dois dire que et plusieurs partenaires se sont rendus sur ce site-là, et plusieurs fois. Si mes souvenirs sont bons, moi-même, personnellement, j'y étais la dernière fois quand le site a été victime d'un incendie. Et je le disais tantôt, nous, acteurs humanitaires, nous intervenons en appui, en soutien aux actions de l'État. Donc, en premier lieu, c'est l'État qui vient en aide à toutes les personnes affectées par le conflit, déplacées ou non déplacées. Et le besoin de nourriture et d'autres besoins sont certes réels, mais nous venons en complément. Et le développement social, la Direction nationale du développement social a déployé des agents avec le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les ACR, et sur tous les sites de déplacés, on va dire. Donc il y a un agent du développement social qui est sur tous ces sites, normalement, qui rapporte directement acquis des droits, tous les problèmes sur ces sites. Ce que je pourrais dire, selon nos informations, c'est qu'il y a eu, depuis le début de l'année, certaines actions sur ces sites en question et même sur d'autres sites. Ces actions pourraient, je dis bien pourraient être insuffisantes, mais une fois de plus, il faut reconnaître aussi que les acteurs humanitaires interviennent en fonction de leur capacité de réponse. Et qu'il y a beaucoup de besoins, non seulement à Bamako sur ce site, mais sur d'autres sites à travers le pays. Et d'ailleurs, on va certainement en venir. Ça mm-hmm. fait partie des défis de la réponse humanitaire.
Oui, on va en parler lors du débat. Okay. Monsieur Mamadou Diarisso, est-ce que le commissariat à la sécurité alimentaire intervient directement auprès des déplacés ici à Bamako et dans d'autres zones?
Oui, effectivement, le commissariat à la sécurité alimentaire intervient directement au niveau de ces sites. Comme il a si bien dit M. Kone, effectivement, c'est l'État qui a en charge alors la protection de ces déplacés internes ainsi que les personnes qui sont en insécurité alimentaire. Nous intervenons fréquemment au niveau de ces sites à travers nos donations. Pas plus que le mois de juin, mois de juin 2023, nous avons eu à donner alors la céréale, en l'occurrence du riz, à chaque site qui soit au niveau de Bamako. Nous avons donné 5 tonnes, qui fait à peu près 25 tonnes. Que nous avons eu à distribuer à travers ces sites-là. En plus de cela, en mois d'août, alors tout récemment, nous avons eu à donner des kits alimentaires qui sont composés de riz, de l'huile, du sucre, des trucs comme ça. On a que nous donnons fréquemment au niveau de ces sites-là.
Malgré la donation, il y a les déplacés qui disent qu'ils ont toujours fait.
Effectivement, les besoins sont très énormes. L'État aussi agit en fonction de ses moyens. Oui. Donc, en fonction de ses moyens, alors que l'État a. Donc, nous agissons en fonction de cela. Et nous venons fréquemment en aide à ces déplacés.
Monsieur Maloud Diko, comment se passe la distribution de ces denrées sur le site? Il y a OCHA qui organise des distributions, le commissariat à la sécurité alimentaire aussi qui distribue des dons au niveau de ces sites. Mais jusqu'à présent, vous dites que vous rencontrez des difficultés quant à vos besoins, à l'assouvissement de vos besoins alimentaires. Comment s'organisent les distributions alimentaires au niveau de vos sites?
Vraiment, ce que je vais te dire, les organisations des alimentaires qui sont là, ce qui viennent d'ici vraiment par rapport à nos déplacés qui sont là, c'est très peu. Premièrement, deuxièmement, il y a nos déplacés qui sont là, qui n'ont même pas reconnu qu'ils sont des déplacés au bureau du développement social, qui n'ont même pas recruté qu'ils sont des déplacés. Il y a nos gens qui sont là. Et puis les gens sont en train d'augmenter tous les jours. Tous les jours. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
Troisièmement, ce qu'on donne d'ici, vraiment, c'est insuffisant. Ça ne suffit même pas les déplacés qui sont là. Ce que le gouvernement donne, ça ne suffit pas. Les déplacés sont plus nombreux et ils vont augmenter tous les jours aussi. Tous les jours.
Les déplacés qui s'accroissent, le nombre de déplacés qui s'accroît tous les jours et des populations qui sont empêchées par-ci, selon les zones, d'aller cultiver convenablement. Est-ce que cela n'est pas un autre défi pour vous, M. Ibrahima Kone, du Bureau de l'information publique et de plaidoyer auprès de OCHA?
Évidemment, c'est un grand défi. Et il y a seulement deux jours, le ministre de la Santé et du Développement social a reçu des acteurs humanitaires au niveau de son département. Et les deux parties se sont entretenues, ils ont beaucoup échangé. Et les acteurs ont fait part de plusieurs défis, dont justement l'accès aux populations dans les besoins. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est qu'il y a certains défis qui nous dépassent dans la mesure où on veut parfois atteindre...
Ces défis sont...
Alors, ces défis sont d'abord d'ordre sécuritaire. Mm-hmm. Ces défis sont d'abord d'ordre sécuritaire. Mais nous sommes aussi maintenant en période hivernale. Et donc, au-delà de la situation sécuritaire, l'hivernage, la situation de pluie fait que les infrastructures routières, par exemple, aussi sont impactées. Ça aussi, ça complique l'accès à certaines personnes. Je ne dis pas les personnes qui sont à Bamako, mais il y a beaucoup de besoins dans d'autres régions du pays. Donc les défis sont d'ordre sécuritaire, mais il y a aussi des défis d'ordre structurel liés à l'infrastructure. On a du mal à accéder à certaines zones. Mais pour revenir aussi à ce que
Monsieur Diko
est en train de dire, cela a été dit plusieurs fois par d'autres déplacés sur d'autres sites. Partout où on intervient ou partout où on passe, on nous dit chaque fois que tout ce que nous apportons et tout ce que l'État apporte, ça reste insuffisant. Je le disais tantôt, on intervient en fonction des moyens que nous disposons. Et quand qui parle des réponses humanitaires, parle aussi des financements. Mm-hmm. Donc pour mobiliser l'argent, c'est difficile.
Parce c'est que un autre défi.
C'est le principal défi d'ailleurs, qui vient auquel la situation sécuritaire vient s'ajouter. Parce que c'est des bailleurs de fonds aussi qui donnent l'argent. L'État contribue certes, mais c'est d'autres pays, d'autres organisations qui donnent aussi l'argent pour financer la réponse humanitaire. Non seulement il y a des problèmes au Mali, mais vous conviendrez avec moi que dans divers endroits au monde, dans beaucoup de régions sur la Terre, il y a beaucoup de crises humanitaires. Ça fait que ce qui arrive au Mali comme financement pour la réponse humanitaire reste encore insuffisant. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, depuis le début de l'année, nous travaillons avec les services de l'État. Nous avons fait des estimations depuis 2022 pour dire qu'il y a en 2023 plus de 5,7 millions de personnes dans les besoins. Et il y a eu aussi des estimations pour arrêter un certain nombre de financements à hauteur de 751 millions de dollars pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mais au jour d'aujourd'hui, sur ces 751 millions de dollars recherchés, il n'y a que 21% qui ont été mobilisés. 21%, nous sommes à la fin du mois d'août. C'est-à-dire qu'on a dépassé la moitié de l'année, mais on n'a pas le tiers du financement recherché. Cela veut dire qu'il faut bien planifier les réponses et il faut bien cibler les réponses. Donc, les fonds disponibles, malgré la bonne volonté des acteurs humanitaires, malgré l'intervention de l'État, malgré la présence de plus d'une centaine d'acteurs, nous sommes confrontés aussi à ces défis-là. On est obligé d'apporter la réponse en fonction de ce que nous avons. Et vu qu'il y a d'énormes besoins un peu partout, en tout cas dans plusieurs régions du pays, on est obligé de bien coordonner, de bien cibler pour apporter justement l'aide aux personnes. Mais il faut aussi que cette aide-là soit bien orientée. Il ne faut pas que tout aille au même endroit. C'est ce défi-là où c'est cette difficulté de compréhension à laquelle aussi nous sommes confrontés.
Alors, M. Mamadou Diarisso, pas les tiers des fonds. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le moment?
Bon, en tout cas, l'État fait ce qu'il peut. L'État intervient chaque année. Comme je l'ai dit au départ, nous faisons une évaluation de la situation alimentaire à travers le pays. Nous déterminons les zones en insécurité alimentaire et nous parvenons à dégager les communes qui sont en insécurité alimentaire et déterminer les populations qui sont susceptibles d'être en insécurité alimentaire dans ces communes-là. C'est à travers cela que nous élaborons le plan national de réponse. Et ce plan national de réponse qui est élaboré conjointement avec les partenaires techniques pour qu'on puisse conjointement venir en aide à ces populations en insécurité alimentaire. Alors effectivement, le défi par rapport à l'insuffisance des moyens est réel. Même au niveau de l'État, il y a l'insuffisance des moyens. Mais nous faisons avec les moyens qui sont disponibles, nous planifions nos activités et nous parvenons quand même à venir en aide aux populations qui sont en insécurité alimentaire. Alors, en tout cas, durant la période de soudure, nous parvenons à venir en aide.
La période maintenant, de soudure, c'est de quel mois?
Le mois de juin jusqu'au mois de septembre.
Vous intervenez partout
Nous intervenons partout à travers le pays. Ce n'est pas un seul site, c'est à travers tous les pays que nous intervenons. Et l'évaluation est faite sur l'ensemble du territoire malien pour déterminer les zones en insécurité alimentaire, les populations qui sont dans les besoins. Et c'est en ce moment que nous planifions notre réponse par rapport à ces personnes qui sont en insécurité alimentaire à travers tous les pays.
Et est-ce que cette distribution des denrées a commencé selon les zones?
Si, ça a commencé. Nous venons même tout de suite d'une mission dans la région de Sikasso. Ça a commencé, la distribution alimentaire a commencé à travers le pays, pratiquement à travers tout le pays.
En termes de pourcentage, est-ce qu'on peut se situer?
Bon, pour le moment, c'est un début. Nous avons commencé à faire le travail. Si vous voulez qu'on fasse une estimation, nous ne sommes pas allés très loin pour le moment. On peut estimer jusqu'à 25% pour le moment.
D'accord. Maintenant, M. Malou Diko, vous, sur le camp des déplacés de Faladjé, comment est-ce que vous vivez? Dans quelles conditions vivez-vous actuellement?
Au camp du Faladjé?
Oui.
Aujourd'hui, les déplacés qui sont là, nous avons une condition. Il y a des autres qui ramassent des caoutchoucs plastiques pour aller vendre ça. Il y a des autres qui rentrent dans la ville pour faire le magnétisme. Il y a des autres qui passent toute la journée du chercher du... comment dit-on là? Ce qu'on donne les animaux, les boues. Pour donner ça, pour vendre sa vente. C'est vraiment, nous avons une difficulté très dure aujourd'hui, très dure.
Qu'en est-il de la situation des femmes et des enfants?
Oui, surtout les femmes et les enfants aujourd'hui, vraiment nous avons eu peur dans ces deux jours-là, parce qu'il manque de sécurité. Hein. Même hier soir, il y avait trois jeunes qui ont venu brûler quatre maisons dans les environs de 2 heures. Ils ont brûlé 3 maisons et ils ont fui, mais on n'a pas pu prendre. Est-ce que vous comprenez? 3 maisons brûlées hier soir.
Oui.
Dieu merci, on a pu éteindre le feu, mais on n'a pas trouvé. C'était 3 personnes et ils ont brûlé seulement, ils ont couru dans les environs de 2 heures. Tout ça, c'est un manque de... Vraiment, il y avait un grand souci pour ça aussi. Des maisons... brûler tout le temps, chaque année, vraiment, c'est une autre chose. C'est des gens qui viendront brûler notre maison pour courir.
Alors, Monsieur Ibrahima Kone, Monsieur Maloud Diko vient d'évoquer quelques points, notamment l'insécurité, l'insalubrité et le banditisme, la précarité aussi dans leur site. Vous, comment est-ce que vous évaluez de façon générale la situation humanitaire au Mali?
Alors, la situation humanitaire est, on va dire, difficile. Et c'est pas seulement cette année. C'est depuis plusieurs années que la situation est difficile, on va dire. Mais avec les efforts conjoints de l'État et les partenaires, on arrive à atténuer cette situation. Dans quel sens? Depuis le début de cette année, par exemple, j'ai parlé de personnes dans le besoin et de personnes ciblées. Et le commissariat à la sécurité alimentaire est là, s'occupe de la situation alimentaire. Mais de manière générale, pour tout secteur confondu, sur les 5,7 millions de personnes qui étaient ciblées par l'assistance humanitaire en janvier 2023, en fin juin, c'est-à-dire à la fin du premier semestre, plus de 1,5 million étaient déjà touchés. C'est-à-dire plus de 1,5 million ont déjà reçu diverses formes d'assistance, pas seulement dans le domaine de l'assistance alimentaire, mais il y a aussi les non-vivres, la santé, les abris, par exemple, pour les personnes déplacées, l'assistance en termes sanitaires et tout ce qui est lié à la protection, comme l'établissement des actes de naissance, et vraiment tout secteur confondu. Et concernant spécifiquement le site de Faladier, je le disais il y a quelques minutes que nous sommes déjà allés sur ce site, notamment après l'incendie. Et il y a eu beaucoup de discussions entre justement les partenaires qui viennent en appui à l'État et le développement social. Et à un moment donné, il avait été question de déplacer les personnes qui sont sur ce site. Et nous ne sommes pas, on va dire, les voix autorisées à parler de leur relocalisation, mais la question avait été posée. Et il n'y a pas eu de suite. En tout cas, les gens sont encore sur ce site. Et chaque année, la question justement de leur conditions de vie, leur précarité, surtout en cette période de pluie, intervient. Parce qu'il l'a dit, ils vivent dans des conditions difficiles. Mais une fois de plus, nous, en tant qu'acteurs humanitaires, nous n'avons aucun moyen, nous n'avons aucun pouvoir de pouvoir déplacer ces gens-là, ou en tout cas de les contraindre à aller ailleurs. Nous pouvons intervenir dans la mesure de nos possibilités, aussi bien là-bas mais que sur d'autres sites, pour améliorer leurs conditions de vie. En termes, par exemple, de fourniture d'eau, selon nos informations, nous savons qu'il y a Solidarité internationale, par exemple, qui intervient sur ce site, qui fournit de l'eau. Et d'autres acteurs, lui-même, il a parlé de fourniture de soins de santé. D'autres acteurs sont intervenus pour fournir, par exemple, des actes de naissance aux enfants. D'autres acteurs ont fourni des services de santé. Mais nous sommes conscients que c'est encore insuffisant. Et c'est seulement en mettant ensemble nos efforts, qu'on pourrait atteindre encore de meilleurs résultats. Ce qui est fait est peut-être encore insuffisant, mais beaucoup a été fait. Il y a encore des choses à faire. Et si on continue à travailler ensemble, acteurs humanitaires qui viennent en appui à l'État, je pense qu'on pourra atteindre encore de meilleurs résultats.
Monsieur Diarissou, est-ce que vous estimez aussi que la situation humanitaire est assez difficile actuellement?
Oui, effectivement, la situation alimentaire est vraiment difficile actuellement. Mm-hmm. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a plus de 10 ans de cela, que chaque fois qu'on fait une évaluation de la situation alimentaire à travers le pays, nous avons des milliers de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Alors, ces dernières années, même, c'est 1 million et quelques qui sont en besoin d'assistance alimentaire directe. Et nous avons à peu près 4 millions, comme l'a dit, il a parlé de 5 millions de population. Nous avons 4 millions aussi qui ont besoin d'être renforcés par rapport à leurs moyens d'existence pour qu'ils ne basculent pas dans l'insécurité alimentaire. C'est ce qui fait à peu près les 5 millions dont il fait allusion. Mais les 1 million 200, là, ça, c'est des personnes qui sont dans un besoin immédiat d'assistance alimentaire. Il faut les amener à manger rapidement pour qu'ils puissent tenir quand même. Et donc, les autres, là, en les soutenant par rapport à leur capital productif, ils parviennent à tenir le cap. Donc, la situation alors, humanitaire a commencé il y a très longtemps de cela, mais ça a été exacerbé à partir de l'insécurité civile. Depuis quand les Touaregs indépendantistes ont alors croisé les fers avec l'État, et par rapport à ça, il y a les djihadistes qui sont venus, qui sont glissés là-dedans. Alors, ils ont créé une situation de précarité à travers le pays, des mouvements de déplacement alors, énormes. de populations qui se sont déplacées énormément alors qu'ils ont quitté leur zone d'origine pour venir dans les zones là où ils sont dans la précarité, ils n'ont même plus de moyens de production. Alors la situation a vraiment devenu très très difficile, très compliquée par rapport à ces déplacés internes qui sont dans les pays. Il y a d'autres déplacés aussi qui sont à l'extérieur du pays et ils sont aussi dans la précarité. Maintenant, en parlant de ceux qui sont à l'intérieur du pays, l'État fait ce qu'il peut pour venir en aide à ces populations qui sont déplacées à l'intérieur du pays. Même à l'extérieur du pays, l'État fait ce qu'il peut par rapport à leur soutien.
L'État fait ce qu'il peut. Maloud Diko, est-ce que vous avez des nouvelles de vos parents qui sont restés dans vos villages ou bien des parents qui se sont déplacés actuellement? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Dans quelles conditions est-ce qu'ils vivent?
Vraiment, nous avons des nouvelles. Nos parents qui ont venu au village, il y a des autres qui sont séparés. Il y a des autres qui sont venus du Donza, ils ont quitté actuellement du Donza. Qui sont du Donza, il y a des autres aussi qui ont venu ici à Bamako, vers Baginda. Il y a des autres qui ont résidé au camp des sites de déplacés qui sont au Sino. Et vraiment, ils sont là, et vraiment, ils sont une difficulté très dure, très dure. Et vraiment, nous sommes les moyens de nous aider seulement pour que la paix reviendra au Mali. Non, vraiment, c'est dur. C'est très dur. Par rapport à ce que les gens disent là-bas, là, vraiment. Et quand même, il y a bien des difficultés. Et ils n'ont aucun souci aujourd'hui, sauf parce que les devoirs, c'est de leurs parents. Depuis aussi, c'est leurs parents. C'est sorti qui est en train de décider aujourd'hui. Vraiment, il faut que vous cherchiez la solution entre les deux. Vraiment, ça me fait plaisir beaucoup. Vraiment. Il faut qu'on cherche la solution pour les deux.
Alors, Monsieur Ibrahima Kone, chargé de l'information publique et de plaidoyer auprès de Ocha. Avec cette nouvelle vague de déplacés qui viennent des villages du centre du pays, est-ce que cela ne fausse pas un peu vos calculs?
Je ne pense pas, parce qu'il y a depuis quelques mois, l'État, à travers la Direction nationale du développement social, a initié une activité. Et en l'occurrence, l'enrôlement biométrique des personnes déplacées internes. Je rappelle que cette activité est soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations. Et l'enrôlement biométrique des déplacés, ça permet non seulement d'avoir le nombre réel, mais aussi, quand l'assistance justement envers ces déplacés-là s'est faite, ce sont les données issues de l'enrôlement biométrique qu'on utilise. Donc ça permet d'éviter par exemple des doublons dans l'assistance. Parce qu'avant cet enrôlement biométrique, il y avait souvent discordance entre les chiffres. Et c'est vrai qu'il y a des vagues de déplacés en fonction de l'évolution du contexte sécuritaire, mais tous les moyens sont mis en œuvre justement pour enregistrer les nouveaux déplacés. Et c'est une activité aussi qui prend du temps. Ça fait que parfois, la réponse, parce qu'il n'y a généralement pas d'assistance avant une évaluation, avant un enregistrement, donc ça peut faire que la réponse souvent peut prendre du temps. Et nous en sommes conscients, mais tous les moyens sont mis en œuvre par justement le développement social, appuyé, je le disais, par l'OIM, dans cette activité d'enregistrement biométrique. Et depuis que ça a commencé, dans les centres et puis les régions nord du pays, toutes les activités d'assistance, c'est-à-dire des réponses humanitaires qui se font, ce sont justement ces données biométriques-là, des déplacés, qu'on utilise pour apporter l'assistance humanitaire.
L'État, on le sait, est en froid avec certains partenaires. Est-ce que cela a des répercussions sur vos actions?
Alors, je ne dirais pas que l'État est en froid avec certains partenaires, en tout cas pas avec nous. Mm-hmm. Parce que je le disais tantôt, le lundi après-midi, nous étions avec reçu par le ministre. Et on n'a pas senti, en tout cas de notre côté, qu'il y a vent froideur. Mm-hmm. Et de ce côté-là, il y a des défis, certes, qui ont été remontés là-bas lors de la réunion par certains partenaires, notamment certaines lourdeurs administratives, parce que depuis un certain temps, tous les partenaires sur le terrain sont appelés à fournir des rapports d'activité chaque mois au niveau des autorités, depuis le niveau commune jusqu'au niveau région. Donc certains partenaires ont dit qu'il y a une certaine lourdeur administrative, si ça pouvait être facilité, pas annulé ou y remédier, mais parce qu'on ne peut pas se substituer à l'État, Nous sommes là et nous travaillons sous la coordination de l'État. Mais certains ont demandé quand même moins de lourdeur dans ce sens. D'autres aussi ont demandé, par exemple, qui mènent des activités dans le domaine de la santé, qui fournissent des médicaments, qu'il y ait par exemple des exonérations dans le cadre justement de leur activité parce que ces partenaires-là importent par exemple des médicaments. Donc ils ont demandé des facilités à l'État dans ce sens. À part ça, je ne parlerai pas de froideur. Jusqu'à preuve du contraire, tout se déroule dans le meilleur des mondes.
Tout se déroule dans le meilleur des mondes. Alors, M. Mamadou Diarisso, des populations empêchées d'aller au champ, est-ce que cela peut impacter dans les jours à venir la situation alimentaire au Mali?
Effectivement, ça peut impacter dans la situation alimentaire au Mali parce que quand les gens empêchent d'aller au champ, les gens empêchent de produire. Alors, cela peut alors jouer sur la production totale nationale du pays. Mais je pense que le système d'alerte précoce est en train de suivre la situation. Alors, périodiquement, il fait la situation périodiquement pour le moment. Pour le moment, je dis bien pour le moment, nous pensons qu'il n'y a pas le feu à la maison. Nous pensons que la campagne de cette année est plus ou moins similaire à la campagne de l'année passée. Et nous pensons que nous pourrons avoir une production alors qui puisse être à hauteur de souhait pour venir en aide à la population malienne d'une manière générale.
Depuis le début de vos actions sur le terrain, est-ce que vous avez senti un impact?
Oui, effectivement, l'impact se fait sentir quand on empêche les paysans d'aller au champ. Mm-hmm. Alors, ça provoque des déplacements parce qu'ils ne peuvent pas cultiver. Ils ont peur d'aller au champ. Ils sont obligés de quitter la zone parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Parce que c'est en produisant qu'ils parviennent à survivre. S'ils ne travaillent pas dans les champs, ils sont obligés de se déplacer, de quitter la zone pour leur survie. Alors ça encore vient alourdir encore le fardeau de l'État qui est obligé de leur venir en aide là où ils sont.
En plus de cela, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui?
Bon, les difficultés que nous avons, on peut dire que nous avons l'insuffisance des moyens aussi parce qu'il faut être conscient que les besoins sont très énormes. L'État aussi a des moyens limités et puis il y a des priorités aussi, il y a d'autres priorités. Mais l'État fait ce qu'il peut. Donc il y a l'insuffisance des moyens, il y a aussi l'insécurité qui fait que souvent on ne parvient pas à accéder facilement à certaines zones. Et l'enclavement, souvent comme on l'avait occupé pendant l'hivernage. Mais le grand problème, c'est l'insécurité civile qui est à travers tout le pays. Alors, et puis encore l'insuffisance des moyens souvent, qui fait qu'on ne parvient pas souvent alors à couvrir tous nos besoins par rapport à la planification.
Alors, M. Mamadou Diarisso, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour tous les déplacés, que ce soit les déplacés qui sont au niveau de Bamako et dans d'autres zones? Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour les déplacés, que ce soit les déplacés internes ou bien les déplacés qui sont hors des frontières maliennes?
Donc, ce qu'il devrait faire aujourd'hui, vraiment, il faut que vous appelez une organisation totale parmi tous les déplacés qui sont là, de lui informer l'État de tout faire, hein, pour que la sécurité revienne au Mali, tout le monde puisse retourner chez eux. Personne ne veut rester d'ici et personne entre nous veut venir d'ici à Bamako. Si vous voyez qu'il y a nos gens qui sont là, les déplacés sont nombreux d'ici, parce que c'est la guerre. Tant qu'il n'y a pas la guerre, la personne ne veut venir d'ici. Il y a nos parents qui n'ont jamais venu d'ici, ils veulent tout le temps rester là-bas. Et même si tu ne parles de venir à Bamako, ils n'ont pas besoin. Même si tu ne parles d'aller ailleurs, ou quelque part, ils n'ont pas besoin. Et il faut les laisser en paix. De conduire les animaux là-bas et laisser dans la bouche, c'est ça qu'il veut. Et vraiment, quel qu'en soit, mais aujourd'hui, ils ont tous fui la guerre, ils ont venu d'ici. Ah, quelqu'un ici, ils ont venu, ils ont fui la guerre pour venir d'ici. Hein? Mais quand même, il faut que la sécurité aussi, là où ils sont, déjà, ils sont là quand même, il faut qu'on cherche la sécurité pour eux. Il faut qu'on cherche la sécurité pour eux dès qu'ils sont là. Mais personne ne cherche la sécurité pour eux. Vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant. Hein? C'est étonnant. Il y a des bars qui ont ouvert à côté des déplacés. Il y a des bandits armés qui sont à côté des déplacés. Et des gens font des vagabondages. Et tout ça, on va dire que c'est pour céder au camp des déplacés même. Hein? C'est pour céder. Bien encore, quelqu'un qui ne veut même pas trouver le dîner, est-ce qu'il va trouver les petits déjeuners le matin, quelqu'un qui n'a pas dîné? Il faut qu'on cherche encore pour leur nourriture aussi avec leur sécurité. Vraiment, c'est ça que je veux.
Alors, M. Ibrahima Kone, et malgré les difficultés qu'on vient d'évoquer lors de ce débat, est-ce que sur le terrain, vous sentez l'impact des aides que vous apportez aux populations vulnérables?
Effectivement, nous sentons l'impact parce que il nous arrive de faire des sorties sur le terrain. Mmh. Je rappelle que le travail de OCHA, en tout cas l'activité principale de OCHA, c'est la coordination humanitaire. Nous ne sommes pas une organisation opérationnelle, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous n'apportons pas directement l'assistance des dons aux populations. Mais nous faisons le plaidoyer, nous parlons pour que les organisations qui apportent l'aide directement, c'est-à-dire l'aide matérielle, et que ce soit des vivres, des non-vivres ou des soins de santé, puissent venir justement en aide aux populations. Donc, à chaque fois que nous allons sur le terrain, et nous posons des questions, nous nous entraînons justement avec les personnes dans les besoins, qui ont bénéficié de l'assistance. Mais je rappelle que cette question d'insuffisance, ça revient à chaque fois. Mais ils disent, on a reçu ça et ça, c'est bon, mais on aimerait encore plus. De Bamako, en passant par Ségou jusqu'à Menaka, c'est le même discours que vous allez entendre. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de satisfaction. On ressent qu'il y a quelque chose qui est apprécié, mais les gens demandent encore plus. Parce qu'on l'a dit depuis le début de nos discussions, il y a plus de besoins, mais il y a peu de ressources pour justement venir en aide à tous ces besoins.
Mais est-ce que toutes les personnes vulnérables ont les mêmes besoins?
Alors non, justement, toutes les personnes vulnérables n'ont pas les mêmes besoins. Mm-hmm. Et dans le cadre de notre travail, tout ceci est pris en compte. On a ce qu'on appelle le genre dans l'action humanitaire. Donc les besoins des hommes, des femmes, des personnes qu'on appelle à besoins spécifiques, les personnes handicapées, on essaie d'intégrer, de prendre en compte les besoins de toutes ces catégories de personnes. Les hommes et les femmes, les garçons et les filles n'ont pas les mêmes besoins. Donc dans le cadre de la réponse, on essaie de prendre en compte tout ça pour essayer, dans la mesure du possible, de répondre justement aux besoins de chacun selon son contexte, selon sa spécificité. Vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui mange habituellement du riz, si vous lui apportez par exemple du haricot, vous ne répondez pas forcément aux besoins de la personne. Donc, ces spécificités sont prises en compte dans le cadre de la réponse humanitaire.
En termes de solutions, il y a M. Maloud Digo qui a parlé du retour de la sécurité. Est-ce que selon vous, ce serait très important aujourd'hui, le retour de la sécurité pour une bonne coordination de vos actions?
Je pense que son appel est certainement bien entendu par les autorités. Mm-hmm. Parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs humanitaires, nous sommes aussi touchés par l'insécurité qui mm-hmm. nous empêche souvent d'aller dans certains endroits. Je pense que son appel est bien entendu par les autorités et c'est notre souhait aussi qu'il y ait plus d'amélioration du contexte sécuritaire pour nous permettre vraiment de faire plus facilement notre travail.
Alors, M. Mamadou Diarisso, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que tout le monde puisse avoir au moins une meilleure assistance alimentaire au Mali?
Bon, d'accord. Par rapport à ça, il faut d'abord faire en sorte qu'on puisse avoir la sécurité mm-hmm. à travers le pays. Si nous parvenons à gagner le pari de la sécurité à travers le pays, et alors pratiquement, ça minimisera beaucoup les problèmes. Ça permettra aux déplacés internes de retourner dans leur site d'origine. Et ça leur permettra d'avoir leurs moyens de production et puis de produire. Et produire pour la nation et produire pour qu'on puisse satisfaire les besoins de l'État en matière d'alimentation. Alors si on parvenait quand même à gagner le pari de la sécurité qui n'est pas tout à fait gagné, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts par rapport à ça. Nous devons saluer quand même l'effort des porteurs d'uniformes qui sont vraiment en mission commandée tous les jours pratiquement pour rétablir cette sécurité à travers le pays. Alors, si on parvenait à gagner cela, alors cela va beaucoup, beaucoup soulager nos souffrances et ça va nous permettre quand même de faire face au développement.
Alors, c'est la fin de ce grand dialogue qui portait sur les humanitaires au service des personnes vulnérables. Comme invité, on avait M. Ibrahima Kone, chargé de l'information publique et de plaidoyer au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Mamadou Diarisso du commissariat à la sécurité alimentaire et M. Maloud Digo, représentant des déplacés de Falajé. Il était au téléphone. Je suis Mariam Koulibaly, j'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. À la partie technique, il y avait Ibrahima Sanogo et Mamadi Keita. Merci et à la prochaine.